Chaque mois, nous traitons pendant une heure l'évolution des connaissances scientifiques et des avancées de la recherche sur l'épidémie de Covid. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la progression de cette deuxième vague que toute l'Europe est en train d'affronter. Pourquoi une telle disparité entre des pays voisins? Pourquoi une reprise si forte en France, en Espagne et au Royaume-Uni, alors que l'Italie et l'Allemagne subissent une augmentation bien moindre du nombre de cas? Et puis, quelle réponse à apporter à cette nouvelle flambée de contamination? Que se passera-t-il dans 6 semaines si le couvre-feu ne donne pas de résultats tangibles? Coronavirus, comment endiguer la deuxième vague? C'est le programme déferlant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point épidémiologique et virologique sur cette deuxième vague et en comprendre les tenants et les aboutissants, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Godin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes virologue et directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à l'Université Paris-Saclay. Bonjour Pascal Crépet.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Et pour co-animer cette discussion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ma camarade Camille Gobert. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes journaliste santé chez notre partenaire chéri Sciences et Avenir. Mais pour commencer, eh bien, on fait le point sur l'actualité scientifique du week-end avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et on commence avec une étude parue dans la revue Science avec la mesure de l'unité de temps la plus courte jamais mesurée en zeptosecondes.
Alors la zeptoseconde, c'est 10 puissance moins 21 secondes. C'est un temps extrêmement court. 1 billionième de milliardième de seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend 1 milliardième de seconde, on est déjà sur ce qu'on appelle une attoseconde. Eh bien la zeptoseconde, c'est encore 1000 fois plus petit. Une équipe de physiciens allemands a mesuré le temps nécessaire aux photons pour passer d'un atome à l'autre. Les chercheurs ont tiré des rayons X sur une molécule de dihydrogène, H2, composée de 2 atomes d'hydrogène, et ils ont mesuré leur interaction grâce au COLTRIMS, un outil à spectroscopie. Résultat, le temps de parcours du photon à travers la molécule est de 247 zeptosecondes. Myriam Zerad est ingénieure de recherche à Aix-Marseille Université. Elle dirige une équipe de recherche au laboratoire d'optique de l'Institut Fresnel.
Cette étude porte sur ce qu'on appelle la photoionisation. Donc la photoionisation, c'est un principe physique qui fait que sur certains matériaux, quand on envoie des photons dessus, le matériau va absorber les photons et ça va générer suffisamment d'énergie dans le matériau pour casser ce qu'on appelle liaison électronique et éjecter des électrons. Donc notre manière de le voir, c'est que quand on va envoyer de la lumière sur un matériau, ça va générer de l'électricité. Et ce sur quoi a travaillé cette équipe allemande, c'est sur les délais de naissance des électrons. En fait, c'est à partir du moment où on a bombardé de photons un matériau, quelle est la durée que mettent les électrons à être éjectés. En fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'interférométrie. Donc l'interférométrie, c'est une méthode optique au départ qui est utilisée pour mesurer soit des distances, soit des temps très courts. Ce qui a été fait là, c'est déjà d'utiliser cette même technique, mais sur des électrons et pas sur des photons. Et au lieu de faire parcourir 2 trajets différents aux 2 électrons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des photons sur une molécule de dihydrogène et chacun de ces 2 atomes a émis des électrons. Une fois que ces électrons ont été émis, ils ont mesuré le délai entre les 2 électrons, hein, de l'ordre de la centaine de zeptosecondes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui met en évidence que ce délai de quelques centaines de zeptosecondes, en fait, il correspond à la distance entre les 2 atomes d'électrons. Donc c'est la distance parcourue par les photons entre ces 2 atomes. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu d'analyse. On était capable de mesurer des différences de marche à l'échelle de la zeptoseconde. Qu'en plus, ils soient capables de relier ça à la distance entre 2 atomes d'hydrogène à l'intérieur de la molécule de dihydrogène, c'est techniquement assez joli.
Voilà, si vous voulez vous faire des nœuds au cerveau, vous pouvez penser qu'il y a plus de zeptosecondes en 1 seconde que de secondes depuis le début de l'univers. Et on passe au bref. La sonde Bepi Colombo a survolé avec succès la planète Vénus.
Oui, la navette de l'ESA et de la JAXA est en route pour Mercure et devrait atteindre son orbite d'ici 2025. Mais d'ici là, la sonde survole Vénus et ses observations vont peut-être servir à confirmer ou à infirmer la présence de phosphine dans son atmosphère. La sonde s'est approchée à environ 10 700 km de la planète. Les instruments fonctionnent bien, ils devraient pouvoir donner des informations sur la température et la densité de l'atmosphère, ainsi que sur sa composition chimique et sur sa couverture nuageuse. Mais les deux agences spatiales appellent à la patience, car le 10 août 2021, Bepi Colombo fera un second survol et passera à seulement 552 km de Vénus. À cette distance, les mesures seront encore plus précises. Patience donc.
Selon une étude parue dans Nature Communications, les îles ne sont pas assez protégées.
Les zones insulaires sont à la fois des zones de forte biodiversité, mais aussi des épicentres d'extinction. En termes de perte d'espèces endémiques, il s'agit des écosystèmes les plus fragiles. Et pourtant, selon cette enquête réalisée par une équipe française, à partir d'une base de données mondiale, pour 2300 îles habitées, la moitié de ces îles ne possède aucune aire protégée. Selon les auteurs, il est urgent de renforcer les efforts de protection de ces zones insulaires.
Et enfin, malgré la crise sanitaire, le CHU de Nantes a supprimé 100 lits.
Et le CHU de Nantes manque de personnel. Les arrêts et les départs en retraite ne sont pas remplacés. En sous-effectif depuis des mois, le personnel soignant ne peut plus exercer correctement et se voit dans l'obligation de supprimer 100 lits. Selon les syndicats, il manquerait environ 1400 postes d'infirmiers, d'aides-soignants ou d'agents de services hospitaliers sur l'ensemble du CHU. Pourtant, la direction a annoncé un bilan financier excellent. L'hôpital a généré un excédent de 3,8 millions d'euros. À la suite de cette annonce, la semaine dernière, le personnel de 14 unités de soins a annoncé une grève illimitée et demande la création d'emplois supplémentaires.
Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. En France, le nombre de contaminations au Covid-19 a dépassé le seuil des 30 000 personnes par jour, tandis que de l'autre côté du Rhin, il franchissait à peine les 7 000. Si on observe la courbe des décès, elle connaissait une pointe de près de 180 cas en fin de semaine dernière, là où le maximum allemand était de 35. Alors que se passe-t-il pour que des pays si proches connaissent des évolutions épidémiques si différentes? Pourquoi l'Espagne et le Royaume-Uni sont, comme la France, durement touchés par cette seconde vague, alors que l'Allemagne et l'Italie s'en sortent mieux? D'ailleurs, tout le monde parle de deuxième vague aujourd'hui, mais qu'entend-on exactement par deuxième vague? Tant que les services de réanimation ne sont pas saturés, peut-on vraiment employer cette terminologie? Faut-il se référer au nombre de contaminations, d'hospitalisations, de réanimations ou de décès? Pour le Premier ministre Jean Castex, en tout cas, il n'y a plus aucun doute sur les termes à employer.
Les moyens accordés au déconfinement en France, de manière comparable, sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été utilisés par l'ensemble des pays
étrangers.
Alors,
est-ce que la méthode était la bonne?
Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on a déconfiné, je pense, de façon efficace. Et puis, sont arrivées les vacances et les Français ont collectivement considéré que c'était fini, que c'était derrière nous.
Le gouvernement aussi a pensé ça aussi?
Non, non, madame. Je ne l'ai pas pensé, madame. J'ai pris mes fonctions, je vous le rappelle, début
le 3 juillet.
Tout à fait. J'ai pris 3 décrets pour généraliser les masques dans l'espace public, dans les commerces. Et ensuite dans les entreprises.
Donc ce sont les Français qui sont lâchés trop tôt.
Écoutez-moi, je n'ai cessé tout l'été d'appeler à la vigilance. Je n'ai quasiment pas pris de vacances au motif, je l'ai souvent employé cette formule, que le virus n'en prenait pas non plus. Donc oui, effectivement.
Donc les Français vous ont pas assez écouté?
Les Français, en tout cas, ont, pour une large part d'entre eux, et quelque part, je dis pas que je les comprends, mais... Ils ont été éprouvés par cette première phase du confinement et ils ont considéré un peu trop vite, malgré les discours que nous tenions sur le fait qu'il faut vivre avec le virus, que ce virus avait disparu. Mais malheureusement, il était caché, mais il était toujours là. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux dire à votre micro, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une situation très difficile. Pas que la France, du reste. Hein. La réalité de la deuxième vague est là.
Voilà, c'était sur France Info, le Premier ministre, le 12 octobre dernier. La réalité de la deuxième vague est là. Pourquoi ça pose un problème, cette notion de deuxième vague, selon vous, Yves Godin?
Moi, je pense que ça, c'est de la sémantique, hein, en fait. On est confronté au même virus, dont la circulation a été ralentie cet été, suite au confinement, d'ailleurs, hein, qui a quand même largement coupé toutes les contaminations. Probablement aussi parce que l'été... Bah, les gens vivent différemment. Le système immunitaire se porte un peu mieux l'été aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez observé. Et peut-être aussi que le virus se transmet moins, vous savez, ces fameux aérosols sont peut-être moins efficaces par temps chaud et humide. Mais néanmoins, c'était ce qu'on craignait, il y a eu une contamination à bas bruit, et en plus dans une population qui n'était pas fragile, hein, on va dire les 15-40 ans, et tout le monde, enfin je veux dire à peu près tous les épidémiologistes, tous les virologues avaient prévenu, attention à la rentrée, quand de nouveau on va se retrouver tous dans les grandes villes, transport en commun, mais surtout, enfin, on va le dire, et ça m'embête un peu personnellement, mais dans les bars, et en particulier tardivement, quand les gens oublient les gestes barrières. Voilà, donc il y a eu aussi des contaminations dans le milieu familial, à travers les grandes fêtes de famille, type mariage, ce genre de choses. Donc ça, ça a contribué à une diffusion massive, et maintenant, on se retrouve quand même avec, finalement, les clusters, ça n'a plus forcément de sens. On a beaucoup de gens autour de nous qui sont porteurs du virus, quoi.
Pascal Crépet, deuxième vague, ça a un sens en épidémiologie, ça correspond à quelque chose de mesurable?
Alors c'est vrai que je partage ce qui vient d'être dit, hein, tout est vraiment une question de définition. En l'occurrence, une vague en épidémiologie, ça n'a pas forcément un sens exact ou une définition exacte. Donc tout dépend de quoi on parle. Si une vague, c'est quelque chose qui nous submerge, eh bien bon, on n'est pas encore dans cette vague qui nous submerge. En revanche, si une vague, c'est justement la courbe épidémique qui commence à s'élever avant d'atteindre un pic, voilà, qu'on ne connaît pas encore, eh bien oui, on est au début de cette deuxième vague.
Est-ce que quel marqueur il faut suivre ou quel marqueur faut-il comprendre pour attester du changement? Enfin, on voit bien, en tout cas, il n'est pas niable aujourd'hui qu'il y a une augmentation massive du nombre de cas et que on a l'impression que cette augmentation est exponentielle. On ne voit pas de plateau pour le moment. Est-ce que ça suffit pas finalement à affirmer qu'on est en train de traverser, nous et beaucoup d'autres pays autour de nous, cette deuxième vague, Pascal Crépet?
Alors là où il faut faire attention, c'est que contrairement à la première vague de mars, aujourd'hui on dispose de beaucoup plus d'indicateurs et notamment des indicateurs qui sont relativement précoces. Et donc vous évoquez le nombre de cas confirmés. Là encore, en épidémiologie, la première chose que l'on fait, c'est définir ce qu'est un cas. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses en septembre sur cette définition de cas. Et effectivement, ce qu'on appelle cas, ce ne sont pas forcément des personnes malades, ce sont des personnes qui ont été infectées par le virus. Et donc, lorsqu'on dit, par exemple, que sur la semaine du 5 au 11 octobre, on a 121 000 nouveaux cas, bon, bah, ce sont 121 000 nouvelles infections de gens qui n'étaient pas infectés avant, et c'est 50% de plus que la semaine d'avant. Et donc, il faut l'interpréter comme ça, comme une évolution assez importante. Et effectivement, si on traçait une courbe, ce serait effectivement une courbe exponentielle qui montre bien la dynamique exponentielle de l'épidémie et le début de cette deuxième vague.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais par rapport à cet indicateur du nombre de cas, dans la mesure où il y a des gens qui se refont tester de multiples fois par rapport à des situations de risque qui sont par exemple à répétition et qui donc vont un peu fausser la significativité du pourcentage de cas positifs?
Pascal Crépet ou Yves Godin, allez-y.
Enfin, je pense que Pascal Crépet répondrait très bien, mais à partir du moment où ces gens-là ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs, on peut pas anticiper si vous faites tester trois fois, mais si beaucoup de gens font la même chose, statistiquement, ça va être marginal. Non, le vrai problème, c'est que effectivement, les gens qui sont considérés comme des cas maintenant, c'est pas ce qu'on détectait en mars. Mais je pense que le chiffre qu'il faut considérer maintenant, c'est le nombre d'hospitalisations, donc de cas sérieux. Là, on peut comparer à ce qui se passait en mars, et on est déjà dans un rythme assez élevé. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est les décès. On arrive à une moyenne maintenant d'environ 100 décès par jour. Alors, évidemment, ça monte beaucoup moins vite, ce fameux R0 dont on parle beaucoup, qu'il faut peut-être appeler R, enfin.
Taux de reproduction.
Le taux de reproduction. Et beaucoup plus faible. Mmh. C'est pour ça aussi que les gens disent, mais non, ça ne repart pas. Parce qu'on rappelle qu'au départ, une exponentielle, c'est, quand ça monte pas vite, c'est assez linéaire quand on est proche du départ. Et donc, les gens ont vu un, deux cas, trois, enfin, voilà. Et puis, progressivement, là, c'est en train d'exploser parce qu'on multiplie quand même par deux à peu près tous les 15 jours, je pense.
Voilà. Le taux de doublement est tous les 15 jours et on peut rappeler que le taux de reproduction, c'est le nombre de personnes qui sont contaminées par un malade, qu'au mois de mars, on l'estimait aux alentours de 3 et qu'aujourd'hui, il est vraisemblablement
1,2 à peu près.
1,2.
Enfin, Pascal Crépel doit savoir ça mieux.
Pascal Crépel, un mot là-dessus pour répondre à la question de Camille Gobert, par ailleurs?
Oui, oui, bah c'est tout à fait exact. Hein. On est effectivement entre 1,2 et 1,5, avec des variations en fonction des régions, parfois des départements. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un chiffre qui est impacté très fortement aussi par nos propres comportements et forcément aussi par les mesures qui sont prises. Donc on est obligé de réestimer ce chiffre toutes les semaines et ça effectivement ça mesure la dynamique de l'épidémie. Et tant que ce chiffre sera supérieur à 1, ce qu'il faut bien voir, c'est que on va augmenter le nombre de nouveaux cas chaque jour. Il faut le comprendre ce chiffre comme une sorte de facteur d'accélération. Lorsqu'on est supérieur à 1, l'épidémie accélère et donc la vitesse de l'épidémie qui peut se traduire par le nombre de nouveaux cas ou le nombre de nouvelles hospitalisations va continuer d'augmenter. Et lorsque on réussira à faire passer ce nombre de reproductions sous la barre des 1, à ce moment-là, on arrêtera d'accélérer. Mais lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, vous ne freinez pas brusquement. Votre vitesse diminue, donc on verra diminuer le nombre de nouvelles hospitalisations et le nombre de nouvelles admissions en réanimation. Mm-hmm. Mais l'épidémie ne sera pas finie pour autant, donc il faudra continuer de gérer l'épidémie.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h17, nous faisons donc aujourd'hui le point sur cette deuxième vague de coronavirus, ce qu'il faut en comprendre, ce qu'il faut faire pour l'interrompre et surtout la différence qu'il peut y avoir entre la situation française et la situation de certains de nos voisins européens. Nous en parlons avec Yves Godin et Pascal Crépet, en compagnie également de ma camarade Camille Gobert de Science et Avenir. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup, on est bombardé de ces chiffres, des hospitalisations, des réanimations. Comment est-ce qu'il faut les lire? Comment est-ce qu'il faut les comprendre, Yves Godin, ces chiffres?
Ben, je pense que ce qu'on voit, c'est déjà une augmentation du nombre de décès. La première chose, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de cas, les hospitalisations et les décès. Hein, les hospitalisations, on sait que c'est souvent entre 5 et 12 jours après après les premiers symptômes. Ensuite, les décès, ça peut être très décalé, puisqu'on installe les gens en réanimation, ça peut durer 3 semaines, voire jusqu'à parfois plusieurs mois. Donc là, vous voyez, il y a ce décalage. Et donc le décès après la réanimation, c'est voilà. Donc ça, c'est déjà donc ce décalage qu'il faut comprendre. Donc là, si vous voulez, avec les mesures, admettons même qu'on est bloqué, ce qui n'est probablement pas complètement le cas, mais qu'on est bloqué les contaminations, on va continuer à voir les hospitalisations augmenter pendant au moins une semaine, et les décès vont continuer à augmenter, le nombre de décès journaliers vont continuer à augmenter pendant les deux semaines à venir, et on peut penser qu'on sera à 150, peut-être 200 décès par jour dans deux semaines. Mmh. Surtout vu les chiffres qu'on a eus de contamination des derniers. Voilà. Mmh.
Camille Gobert.
Et par rapport à la comptabilisation d'ailleurs du nombre de cas, vous parliez de décalage entre la déclaration des cas et les hospitalisations. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage entre le moment où on se fait tester, le moment où on reçoit le résultat, le moment où les cas sont comptabilisés? Est-ce qu'on n'a pas une autre semaine de décalage entre le moment où les gens sont testés et le moment où on peut les comptabiliser enfin dans les cas? Enfin, combien de temps de retard on a sur la comptabilisation du nombre de cas?
En temps réel, Pascal Crépel là-dessus peut-être.
Alors là, pour le coup, une fois que le test est réalisé et qu'on a le résultat, le système d'information est très bien fait et la remontée est immédiate. Donc il y a, une fois que le résultat est arrivé, le système est directement mis à jour. Donc il n'y a pas de délai à ce niveau-là. Pour les hospitalisations, c'est quasiment pareil, mais ça se joue. Alors, disons que le système d'information civique, donc qui comptabilise les hospitalisations, donc est mis à jour par le personnel hospitalier au moment de l'entrée des personnes. Lors de la première vague, on pouvait observer parfois un petit délai, mais parce que le personnel était malheureusement surchargé, mais tout était plutôt bien rempli. Et aujourd'hui, on n'observe pas ce type de délai, en tout cas pour l'instant. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à signaler sur ce point, à mon avis.
Mais quand on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, je crois, vous avez peut-être les chiffres, vous allez pouvoir me corriger, Pascal Crépet, parce que moi j'ai les chiffres qui s'arrêtent au 11 octobre, alors les chiffres de 18 sont sortis hier, donc évidemment, donc vous serez peut-être plus précis que moi. Mais en tout cas, on voit, pour le dire, une augmentation du taux d'hospitalisation, du nombre d'hospitalisations de 20% d'une semaine sur l'autre, entre la semaine du 5 au 11 et la semaine précédente, alors qu'on voit une augmentation du nombre d'entrées en réanimation 10 fois moindre, de 1,9%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui rentrent en réanimation aujourd'hui par rapport, en tout cas l'augmentation du nombre de réanimations est nettement plus basse que l'augmentation du nombre d'hospitalisations. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ça? Est-ce que la logique est toujours suivie par les chiffres dont vous disposez du 18?
Alors, donc il y a deux éléments peut-être qu'il faut rappeler sur ces chiffres-là. Bon, le premier, c'est que c'est compliqué d'analyser des chiffres un peu au quotidien comme ça, parce qu'il y a forcément des variations un peu aléatoires donc toutes les variations ne sont pas forcément porteuses de sens. Ensuite, l'autre élément, c'est que tous les patients n'entrent pas directement en réanimation. Les patients, très souvent, font d'abord une phase d'hospitalisation avant d'arriver en réanimation. Et donc, il y a une certaine logique à ce qu'il y ait là aussi un décalage entre l'augmentation des hospitalisations et l'augmentation des réanimations. Mais d'une manière générale, ce que l'on voit et ce qu'il faut garder en tête, c'est que malheureusement, ces chiffres sont à la hausse et que donc, c'est inquiétant.
Est-ce que ça signifie que ce taux d'entrée en réanimation, il va continuer à augmenter graduellement? Est-ce que ça signifie, pour parler en clair, qu'on va arriver inexorablement, compte tenu de l'état actuel des choses, à une saturation des 5000 lits de réanimation en France mi-novembre, comme on peut l'imaginer si on fait une projection assez simple de l'augmentation des cas aujourd'hui?
Alors, pas forcément, parce que on a encore un peu de temps devant nous et que des mesures pour contrôler cette épidémie ont été prises. Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 patients en réanimation. Donc c'est énorme, enfin 2000 patients Covid en réanimation.
Sur les 5000 lits, c'est bien ça, dont dispose la France.
Sur les 5 à 6 000 lits, ouais. C'est phénoménal. On n'est pas au niveau de mars, mais ça pose déjà des tensions très importantes sur le système hospitalier. Et donc, comme l'épidémie est ralentie parce que nous la contrôlons grâce aux masques, grâce aux différentes mesures que chacun d'entre nous essayons d'adopter, mais aussi grâce au dispositif de contact tracing qui permet d'éviter des chaînes de contamination, pas suffisamment, mais d'en éviter quand même. Nous avons ce nombre de reproductions qui est plus faible et qui tend à aplatir et à retarder la dynamique de l'épidémie. L'enjeu, c'est que les nouvelles mesures qui ont été prises la semaine dernière permettent de contrôler, de ramener, de baisser encore ce nombre de reproductions effectives pour que ce flux de patients hospitalisés et de patients admis en réanimation se stabilise, voire baisse. Afin que ces capacités hospitalières ne soient pas dépassées.
Mais alors, la question, peut-être Yves Godin, c'est que on entend Pascal Crépet nous dire on contrôle l'épidémie, on n'a pas l'impression qu'elle soit vraiment sous contrôle quand on regarde les courbes ou les chiffres qu'on vient de détailler. Et par ailleurs, sur la réalité effective des mesures que l'on prend pour essayer justement d'en maîtriser le flux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu justement d'aplatissement de la courbe au moment où on a généralisé le port des masques, où on a commencé à fermer les bars et les restaurants? On a l'impression que ça n'a pas d'effet en fait.
Alors, deux choses. On contrôle quand même nettement mieux. Et quand on prend le taux de reproduction, on est passé de quelque chose qui était, selon les estimés, entre 2, 5 et 4 selon les études. On l'a estimé à 3 en France. Un taux de reproduction, donc encore une fois, le nombre de malades contaminés, le nombre de personnes qui vont être contaminées par un malade, qui était de l'ordre donc de entre 2, 5 et 4 hein, selon les estimations. Et maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est plutôt entre 1,2 et 1,5. Ce qui signifie que, et dans une période qui n'est pas forcément favorable, puisque tout le monde reprend le travail, on reprend les transports, et les gens continuent à travailler. Hein, enfin, et, donc les masques, les mesures de distanciation sociale sont quand même efficaces. Mais insuffisamment efficace, malheureusement.
Un frein, mais pas un frein assez puissant.
Voilà. Donc, c'est pour ça que le couvre-feu a été mis en place dans les endroits où il y a une forte propagation encore du virus. Et comme on sait que, effectivement, la propagation, il y a des moyens qu'on peut éviter à travers le couvre-feu. Enfin, il y a des modes de propagation qu'on peut éviter à travers le couvre-feu. C'est pour ça que ça a été mis en place. Si on repasse en dessous de 1, si on est à 0,9, ça va décroître lentement. Voilà, et ben on sera. Le seul problème pour moi, c'est que ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'on est très loin dans cette vague, appelons-la comme ça, d'une immunité dite de troupeau, de l'immunité collective. Mmh. Et donc, par conséquent, quand on va relever, quand on va arrêter les mesures, je crains que ça ne reparte et qu'on ait un petit peu ce qui avait d'ailleurs été prévu par les épidémiologistes anglais, une succession de vaguelettes qu'on limitera, on prendra des mesures et ça peut durer longtemps puisque pour éviter ça, il faudra atteindre l'immunité collective.
C'est-à-dire à 60-70% de la population ou un vaccin.
Ou un vaccin, mais qui donnera cette immunité collective de fait.
Camille Gobert, une question.
Bah, par rapport à cette immunité collective, justement, on entend pas mal de personnes qui ont un ras-le-bol en fait, des mesures qui ont été prises, qui ont envie de retrouver une vie normale, etc. Dire, mais en fait, pourquoi ne pas laisser le virus se répandre? Pourquoi ne pas avoir cette immunité collective de façon naturelle, entre guillemets, sans attendre le vaccin qui, pour l'instant, n'est pas encore au point? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie?
Alors, trois réponses à ça. Il y a des pays qui ont essayé de le faire. La Suède. Et on peut dire que la Suède, la distanciation sociale, est naturellement très supérieure à ce qui se passe dans les pays plutôt latins. Ça, c'est une première chose. Dans
la densité de population
n'est
pas la même.
Les modes de vie, les façons de se comporter sont différents. Donc, ça a un impact. Et malgré tout, en Suède, ils ont atteint le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès par rapport à la population totale, qui est, je crois, de 10 points. Nous, on doit approcher de 45, on a dû passer 45, et la Suède est 10 points au-dessus, à 55 décès pour 100 000 habitants. Donc en fait, en Suède, on ne sait pas si ça va repartir en Suède, mais en tout cas, ça n'a pas été tout à fait une bonne politique. Le deuxième point, c'est que c'est quand même sacrifier les plus faibles, parce qu'on a bien vu que cet été, finalement, on a laissé l'épidémie circuler dans les populations les plus jeunes. Enfin, on ne l'a pas laissé, ça s'est fait comme ça. Et là, on voit bien que de nouveau, on recontamine les personnes les plus âgées, les personnes à risque, et on a mathématiquement des décès maintenant qui sont plus importants. Et le troisième point, toujours autour de ça, c'est qu'on ne veut pas justement saturer nos services hospitaliers, parce que si on sature nos services hospitaliers, non seulement on peut plus prendre en compte les cas les plus bénins, mais aussi on va arrêter ce qu'on a déjà vu, on va être obligé de décaler des opérations cardiaques, et puis on ne pourra plus accueillir certaines personnes. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles l'immunité, la stratégie de l'immunité collective atteinte spontanément par diffusion de la maladie, me semble pas très très une très bonne idée. Et enfin, dernier point, ça ne s'est jamais fait comme ça dans l'humanité. À chaque fois, l'humanité, face aux épidémies de peste, les gens se sont protégés. Il y a des exemples de gens qui se sont isolés. On a des récits historiques autour de ça. Personne n'a dit je vais me faire contaminer pour que ça aille mieux.
Mmh. Pascal Crépel, une question à ce propos, puisque Yves Godin évoque la question de la Suède. Qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce qu'on a raté en France pour avoir aujourd'hui quelques 30 000 nouveaux cas par jour, là où l'Allemagne a atteint, alors la courbe est aussi en train d'augmenter, mais l'Allemagne, qui est une population plus nombreuse que la France, atteint à peine 7 000. C'est quand même beaucoup, beaucoup de retard. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Alors, on pourrait parler de l'Italie aussi. Enfin, je pense à l'Allemagne parce que la différence est plus flagrante.
Alors, c'est assez difficile en fait hein, de comparer les pays comme ça, simplement parce que les populations ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais en plus de ça, la relation de la population vis-à-vis des mesures prises, vis-à-vis de la confiance qu'elle peut avoir dans les autorités de santé n'est pas la même. Vous prenez l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie. Leur application Stop Covid ont été par exemple beaucoup plus téléchargées. Alors je ne dis pas que c'est pour ça que leur épidémie est semble un peu moins sévère aujourd'hui. Mais ça donne un indicateur peut-être du niveau d'implication de la population dans un certain nombre de gestes barrières qui ont pu contribuer à ralentir un peu plus cette épidémie. Et pour revenir à la Suède, alors certes la Suède n'a pas fait de confinement, mais typiquement la population, lorsque vous regardez les données de mobilité des Suédois, la population s'est quasiment auto-confinée, vu que la réduction de la mobilité des déplacements des Suédois a été d'à peu près 70% pendant que nous étions en confinement. Donc même s'il n'y a pas eu de confinement déclaré et entre guillemets imposé, les Suédois ont quand même appliqué un certain nombre de mesures de façon un peu naturelle,
spontanée, oui.
Spontanée. Et ce qui explique que la situation est moins catastrophique qu'elle aurait pu être s'ils n'avaient rien fait du tout. Ils ne sont pas dans une bonne situation, puisque leurs chiffres de mortalité, comme ça a été dit, sont plus élevés que les nôtres, mais ça aurait pu être bien pire. L'explication de pourquoi nous sommes aujourd'hui face à un redémarrage, toute l'Europe fait face à ce redémarrage de l'épidémie. Et effectivement, nous attendions à ce redémarrage avec la rentrée, mais surtout avec l'arrivée de l'automne et de la période hivernale, qui sont des périodes traditionnellement d'épidémie pour les maladies respiratoires. Et il n'est pas impossible que justement ce coronavirus se propage de façon beaucoup plus propice à cette période, simplement parce que les gens sont beaucoup plus confinés en hiver qu'en été.
Mais alors pourquoi à ce moment-là un redémarrage en Europe et pas en Asie, Pascal Crépel ?
Les mesures qui ont été prises en Asie, enfin après l'Asie c'est grand, hein, mais
oui, donc,
si vous prenez la Chine par exemple, les mesures qui ont été prises ont été extrêmement drastiques hein, en termes de confinement et en termes de tests. Donc si l'on peut croire les chiffres, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Hein. La circulation du virus a été quasiment stoppée en Chine, et lors des quelques redémarrages qu'on a pu voir, les mesures qui ont été prises ont été extrêmement extrêmement fortes. Et ce qui s'applique, et ce qui peut s'appliquer en Chine par un gouvernement chinois un petit peu plus autoritaire que le gouvernement français ne peut pas forcément s'appliquer à un pays européen. Et donc les différences de résultats peuvent s'expliquer par cela.
C'est-à-dire qu'on payerait le fait de vivre dans des régimes démocratiques, c'est ce que vous êtes en train de sous-entendre.
Si c'est le prix à payer, c'est peut-être pas très grave. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épidémie et l'évolution de l'épidémie dépend du comportement de la population. Et donc le développement de l'épidémie repose entre nos mains et dépend de comment est-ce que on va appliquer les mesures pour contrôler cette épidémie. Et donc voilà.
On va continuer à faire ce suivi mensuel dans la méthode scientifique bien de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. On va parler de données de modélisation notamment, mais on va essayer aussi de voir bien ce qui peut se produire maintenant qu'on commence à acculer les mesures de restriction. Jusqu'où peut-on les accumuler? Faut-il un jour en finir par revenir au confinement total? On en parle dans quelques minutes. La vague de Bonobo à 16h37 sur France Culture. Nous parlons de la deuxième vague de cette épidémie de Covid, des raisons pour lesquelles elle nous frappe a priori si fort en France par rapport à d'autres pays voisins. Quelle méthode pour y remédier? Et puis, que faire plus tard? Quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre si jamais celles qui sont prises actuellement ne sont pas suffisantes? Nous en parlons avec Yves Godin, qui est virologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à l'Université de Paris-Saclay, avec Pascal Crépet, qui est épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Tout cela en compagnie de ma camarade Camille Gobert, journaliste santé chez notre partenaire Sciences et Avenir. Alors, au cœur de la surveillance de l'épidémie, eh bien, il y a les modèles qui permettent de formaliser l'évolution donc de la maladie en temps réel. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes intéressé à un nouveau modèle inspiré de la physique des particules.
Oui, j'ai parlé de tout ça avec Giacomo Cacciapaglia, qui est physicien et chercheur à l'Institut de physique des deux infinis, l'IP2I à Lyon. Avec ses collègues chercheurs, Giacomo Cacciapaglia a élaboré un modèle mathématique inspiré de la physique des hautes énergies qui repose sur un concept un peu particulier, le groupe de renormalisation. Quand on est confronté à un système complexe comme la physique des particules ou l'évolution d'une épidémie, ce concept permet de se concentrer sur un paramètre de l'ensemble qui est le plus représentatif de l'évolution du système. Giacomo Cacciapaglia, pardon, nous raconte donc comment cette idée leur est venue d'adapter ce concept pour prédire au mieux l'évolution épidémique et sur quel point leurs travaux se sont concentrés.
Pendant le confinement, on a regardé les courbes épidémiologiques, donc le nombre de cas infectés, comment ils évoluent dans le temps. Et on a vu que la forme de cette évolution est très similaire à certains fonctions qu'on a étudiées dans les modèles dont je m'occupe, dans les modèles qu'on utilise pour essayer de comprendre les bosons de Higgs. Donc on a vu l'effet que les fonctions sont similaires, donc on s'est dit peut-être on peut essayer d'utiliser la même équation, la même mathématique pour décrire l'évolution de l'épidémie dans le temps.
Est-ce que vous pourriez me définir en quelques mots le concept, justement un peu clé, de groupe de renormalisation qui est utilisé en physique des particules et en physique des matériaux et que vous avez impliqué dans cette étude et dans cette comparaison avec l'évolution de l'épidémie?
Alors, le concept est plutôt simple. Donc, on va, en physique, normalement, on va regarder des systèmes, par exemple, des particules, disons, pour donner un exemple, et donc regarder quelles sont les propriétés de cette particule à différents niveaux d'énergie. Par exemple, si on fait des collisions entre particules à des énergies très faibles ou très fortes, quelle est la différence entre les deux phénomènes physiques. Et donc, avec les groupes de renormalisation, on peut étudier, on peut comparer la physique entre ces deux échelles d'énergie. Donc, dans le cas de l'épidémie, on peut faire la même chose, mais à la place de comparer des échelles d'énergie, on va comparer le temps. Donc, l'idée, c'est de comparer le nombre de personnes infectées à deux temps différents et essayer de décrire avec une équation quelle est la relation entre les deux valeurs qu'on trouve.
Quand on parle d'une épidémie aussi importante que celle qu'on traverse en ce moment, on imagine qu'il y a une quantité considérable de données à mobiliser pour justement modéliser l'évolution de l'épidémie. À quel moment justement ce concept qui semble simplifier un petit peu l'approche vous est paru approprié pour proposer une nouvelle compréhension de l'évolution de l'épidémie?
Pour nous, l'idée, c'est en fait d'essayer de maîtriser la structure temporelle de l'épidémie. On a réalisé que si on essaie de mettre dans l'étude numérique toutes les données qu'on connaît, tous les paramètres qu'on ne connaît pas, donc avec toute cette incertitude sur les paramètres qu'il faut utiliser dans un modèle complexe, c'est peut-être plus simple de regarder les problèmes dans une façon globale, essayer de maîtriser au moins un aspect de l'évolution de l'épidémie. Donc, on a vu qu'avec l'équation de la normalisation, on peut maîtriser au moins la structure temporelle. Donc, essayer de prédire, par exemple, s'il y aura une deuxième vague. C'est ça qu'on a fait dans notre travail.
Mm-hmm. Pour qu'un modèle soit efficace, il faut quand même qu'il y ait des données dedans. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelles données vous avez mobilisées de santé publique et quels paramètres vous avez retenus pour ce modèle-là?
Alors, on a utilisé les données sur le nombre de cas infectés qui sont été observés pendant la première vague en France, enfin dans toute l'Europe. Et avec les modèles, on peut, à partir des données, on peut extraire un paramètre qui est très important, c'est un taux d'infection effectif. Et ça caractérise la vitesse de diffusion de l'épidémie dans chaque pays. Et donc, on a utilisé cette donnée qui vient de la première vague pour essayer de modéliser la deuxième vague. Il y a un autre paramètre qu'on a utilisé, et ça c'est l'interaction entre différents pays. Et en pratique, ça veut dire qu'il faut voir combien de personnes voyagent entre un pays et l'autre, parce que ça peut être un vecteur de l'infection. Donc ça peut porter l'infection d'un pays avec des cas très sérieux, avec un pays où il n'y a pas beaucoup de cas. Donc pour cela, on a essayé d'estimer ce nombre moyen de voyageurs par semaine, en utilisant encore une fois les données de la première vague. Et donc après, on a utilisé les mêmes valeurs pour estimer, pour essayer de prédire quand il y aura la deuxième vague.
Qui dit modèle prédictif dit prédiction. Alors j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les prédictions auxquelles vous êtes parvenu avec ce modèle-là concernant la deuxième vague.
On a fait les calculs à la fin de juillet, quand il n'y avait pas grand trace de deuxième vague en Europe. En fait, il y avait des cas dans certains pays, on a trouvé une dizaine de pays où il y avait juste un tout petit début de deuxième vague. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait une petite augmentation des cas infectés par jour, détectés par jour. Et on a utilisé cette information pour essayer de comprendre quand il y aura une deuxième vague dans tout le reste de l'Europe. Donc, dans la simulation, on a vu qu'il y aura une deuxième vague autour de septembre, octobre, novembre. Ça dépend du pays, en fait. En fait, on a aussi utilisé la même méthode pour essayer de comprendre, par exemple, l'effet des mesures qui sont prises pendant la première vague. Et on a trouvé quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, après que le confinement a été déclaré, il faut attendre 2 ou 3 semaines avant de voir un effet sur la vitesse de diffusion du virus. Et pour arriver à cette conclusion, on a étudié tous les pays européens et tous les États aux États-Unis. On a vu qu'il y a cette échelle de temps qui est un peu partout.
Et quelle est la réception des épidémiologistes qui ont tendance toujours un petit peu à manipuler avec pas mal de précautions les modèles prédictifs?
Notre but, c'était vraiment de comprendre le temps, donc essayer de prédire une prochaine vague. Après, c'est vrai qu'on est en train aussi de réfléchir comment ajouter d'autres éléments dans la simulation. Donc, par exemple, on peut ajouter des informations sur l'immunité collective, s'il n'y a, ou l'effet des vaccins. Et donc, pour ça, peut-être que ça sera bon pour nous de collaborer avec des experts de ces épidémiologiques. Donc, c'est pas juste pour montrer que la méthode, ça marche. On va bien l'utiliser pour essayer de maîtriser l'épidémie.
Voilà ce reportage sur ce modèle singulier de prédiction inspiré de la physique des particules. Votre sentiment, justement, Pascal Crépet, en tant qu'épidémiologiste, sur ce type de modèle prédictif dont on sait qu'effectivement ils peuvent être pris avec beaucoup de précautions en règle générale?
Alors moi, je ne suis pas juste épidémiologiste, hein, je suis aussi modélisateur. Et c'est vrai que ça fait déjà de plusieurs dizaines d'années en fait que l'épidémiologie et la modélisation en épidémiologie bénéficient des apports méthodologiques, notamment de la physique et de la physique statistique. Donc c'est pas très étonnant, voilà, que des physiciens s'intéressent à ça. Néanmoins, aujourd'hui, on bénéficie d'outils justement de modélisation qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus, j'ai envie de dire, subtils, parce que justement, ils intègrent toutes ces données liées aux hypothèses sur l'immunité, sur l'impact des comportements, et donc. Donc c'est pas très compliqué entre guillemets pour les modélisateurs en épidémiologie d'obtenir ce type de résultat, et ça fait en l'occurrence longtemps que nous avions la plupart d'entre nous ce type de résultat. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les bonnes hypothèses et les bonnes données. Et les bonnes hypothèses, voilà, elles se basent sur aussi sur les hypothèses sur le comportement des populations et sur l'efficacité des mesures de contrôle qui sont prises. Et c'est là où les inconnus résident aujourd'hui.
Mmh. Yves Godin.
Non, je serais pas étonné si finalement les équations dont parlait le physicien soient pas si éloigné finalement de celles qui sont utilisées en épidémiologie. Je veux dire, je pense que tous les épidémiologistes, enfin on venait même de le dire juste avant, on sait qu'il y a un délai de deux semaines entre le moment où on prend les mesures et les effets de la mesure. Donc voilà, enfin moi je suis pas épidémiologiste, mais bon, je connais un petit peu les équations qu'il y a derrière, mais bon voilà.
Ça veut dire que par exemple sur le couvre-feu, il va falloir attendre 15 jours, mais dans 15 jours on va voir si immédiatement ça a un effet ou si ça n'en a pas?
On va voir déjà cette semaine, on va pas voir d'effet, puisque les gens qui vont tomber malades maintenant, ils auront été au plus tard contaminés jeudi, vendredi ou samedi. Donc on va, sur cette semaine, l'effet devrait commencer à se faire sentir à partir du week-end prochain, pour ce qui est du nombre de cas, à condition qu'on les compte toujours de la même façon. Pour les hospitalisations, je pense que ce sera plutôt dans deux semaines. Et pour les décès, ce sera encore un peu après. Il y a toujours ce décalage. Enfin, je pense que Pascal Crépel est plus expert que moi dans ce domaine.
Un mot, Pascal Crépel, là-dessus, sur le délai, mais qui est le délai, effectivement, dont on parle depuis plusieurs semaines, sur ce temps qui peut se passer entre la contamination, le diagnostic, l'hospitalisation et éventuellement la réanimation.
Oui, ben ce délai il est effectivement bien connu. On l'avait observé lors de la première vague et justement sur l'impact du confinement. Donc il y a effectivement rien d'étonnant à ça. Pour le couvre-feu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a été évalué en Guyane. Mm-hmm. Les équipes de l'Institut Pasteur ont fait ce travail et il a eu une efficacité assez intéressante, puisqu'il a permis que le système de santé guyanais ne soit pas dépassé. Donc on espère que ce couvre-feu-là aura la même efficacité, même si les résultats ne sont forcément pas transposables. Mais effectivement, il va falloir attendre encore plusieurs jours avant d'en voir l'effet.
Il y a une question que je souhaitais vous poser également à tous les deux sur ce que nous aurions plus mal fait que les autres pour se retrouver avec cette proportion d'infections aujourd'hui qui est supérieure à celle de d'autres pays voisins.
c'est une sous-estimation de la diffusion par aérosol, Yves Godin. On en parlait vendredi dans la radiographie du coronavirus. Ça a été un peu parfois galvaudé. Antoine Flahault disait 70% de contamination par aérosol. C'est très contesté dans le milieu virologique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi, je pense que c'est pas d'ailleurs que la France qui l'a sous-estimé. Je pense que c'est quelque chose qui a été sous-estimé de façon très générale. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, dans les événements de contamination massive, la contamination par aérosol a joué un rôle important. Et rétrospectivement, je pense que ça aura aussi un impact sur l'évaluation de ce mode de contamination pour d'autres virus respiratoires. En particulier, quand on se contamine avec les mains, on a le virus sur les mains, il faut le porter, enfin voilà. Tandis que lorsqu'on a des micro-gouttelettes qui sont chargées de virus, immédiatement, ces micro-gouttelettes qui flottent et que vous respirez vont aller sur vos muqueuses respiratoires et donc le virus va de suite trouver des cellules qui peuvent infecter.
La différence entre les aérosols et les gouttelettes, c'est que les aérosols sont plus petits.
Sont plus petits et ça flotte longtemps dans l'air, alors que les gouttelettes, c'est directionnel. C'est pour ça qu'on respecte une distance d'1,50 m. C'est directionnel, ça va aller contaminer la surface, vous allez vous contaminer les mains, vous allez éventuellement recevoir sur vos vêtements. En revanche, les aérosols, en fait, il faut être prudent, hein. C'est un continuum de comportement. Entre la grosse gouttelette qui sédimente très vite, disons la gouttelette de quelques centaines de microns, et la gouttelette de 10, 15, 20 microns, qui elle va rester flotter dans l'atmosphère plusieurs heures et qui va être remise en suspension à chaque fois qu'il y a une circulation d'air.
Les aérosols étant normalement inférieurs à 5 microns, c'est ça?
Ouais, je sais pas. Ça peut être une dizaine de microns. Ouais. Enfin voilà, voilà.
Parce que juste pour compléter là-dessus, s'il y avait contamination par aérosol, les arguments qui plaident en défaveur de cette hypothèse sont ceux que les maladies respiratoires à contamination par aérosol que l'on connaît, comme la tuberculose par exemple,
ou la
varicelle d'ailleurs, je crois, ont des taux de reproduction qui sont infiniment supérieurs.
Oui, mais ça c'est pas un argument parce que ça va dépendre du nombre de virus par gouttelette, de la densité du virus dans nos projections, par exemple. Et ça, c'est très dur à mesurer, hein. C'est pas simple. Les expériences pour mettre ça en évidence, c'est compliqué.
Mmh. Camille Gobert?
Oui, par rapport à cette aérosolisation et au couvre-feu, donc c'est vraiment... Et je pense que c'est quelque chose qui va être important de dire, que ces mesures de faire un couvre-feu en France, c'est aussi lié à cette aérosolisation, parce que les espaces clos, c'est là que sont les endroits à risque.
Oui, c'est pour ça. En fait, c'est effectivement, je pense que les restaurants qui ont pris toutes les mesures, ils payent pour les gens où, effectivement, à partir de 10h, 11h, c'est la fête, plus personne ne porte le masque. Il n'y a pas de jugement moral, hein, c'est juste un constat. Enfin, je veux dire, on peut pas faire la fête, porter des masques et essayer de boire une bière, hein, c'est compliqué. Donc, tout ça fait qu'effectivement, voilà, là, il y a dans des lieux où les gens, maintenant, il fait plus frais, les gens rentrent dans le bar, passé une certaine heure, on ferme la porte aussi pour éviter éventuellement le bruit. Effectivement, il y a une contamination par aérosol massive. Mais c'est vrai aussi, lors des mariages, enfin voilà, de toutes ces fêtes où il y a beaucoup de gens qui, en plus, venant de beaucoup d'endroits, voilà, ça fait un brassage important, et puis qui repartent après et qui vont en plus de nouveau disséminer. Donc ça, c'est sûr que c'est une mesure, on va voir si elle est efficace, moi je pense qu'elle le sera, et qui va limiter quand même. Okay.
On entendait également Yves Godin le fait que malgré tout le problème des aérosols, en tout cas l'une des questions posées par l'aérosolisation, c'est celui des masques, puisque si aérosolisation il y a, les masques chirurgicaux ne seraient plus efficaces, ce qui voudrait dire à ce moment-là que bien tout le monde se contaminerait massivement dans les transports en commun. On a l'impression que les transports en commun sont un peu le grand oublié, ou en tout cas le grand laissé de côté, notamment par les gouvernants actuels, en disant on peut continuer à laisser les gens s'entasser dans le métro, dans les bus, mais on va fermer les bars et les restaurants. Comment on peut le comprendre ça?
Dans les transports en commun, de toute façon, le masque est obligatoire. Donc tout le monde le porte et il y a des contrôles et il y a même un autocontrôle. Je peux vous dire que les gens dans Paris portent pas le masque dans le métro, il y a des regards pas toujours très sympathiques. Donc tout le monde le porte. Alors le masque, encore une fois, ne vous protège pas de tout. Mais par contre, il limite considérablement votre production d'aérosol. Et si tout le monde limite sa production d'aérosol, eh bien, on limite la contamination. Il n'y a pas de solution parfaite, hein. Il y a juste une série de mesures qui, justement, font baisser ce fameux taux de reproduction de façon à ce que une personne qui serait asymptomatique, qui porterait le virus, contamine le moins de gens possible. Donc, en fait, tout ça, c'est du civisme. Et voilà, c'est une période compliquée. Je pense que il est difficile de prédire combien elle va durer. vu qu'on est très loin de l'immunité de population, je crains que cet hiver, ce sera compliqué. Voilà. Après, peut-être Pascal Crépel sera plus positif que moi là-dessus.
Alors, Pascal Crépel, peut-être votre opinion là-dessus, sur la sous-estimation des aérosols, sur la difficulté d'ailleurs à en estimer la part totale dans les phénomènes de contamination ou de supercontamination.
Non, alors moi je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, mais je trouve que c'est bien que aujourd'hui on sache un peu mieux comment ce virus se transmet, parce que ça permet d'adapter aussi les mesures pour éviter ces contaminations. Et le fait de confirmer aujourd'hui qu'il y a une bonne part des contaminations qui se font par les aérosols, bon ça fait que on peut conseiller aux gens de plus aérer et d'éviter le plus possible de se retrouver à plusieurs dans des endroits confinés, puisque ce sont effectivement ces endroits où la densité d'aérosols va provoquer éventuellement une densité d'aérosols porteurs de virus et donc provoquer des infections. Donc il ne faut pas forcément voir ça comme quelque chose de négatif. Plus on en sait et plus on peut être efficace pour lutter contre l'épidémie. En revanche, là où ça va poser problème, c'est qu'effectivement l'arrivée de l'hiver va faire que les gens vont être de plus en plus confinés. Et donc, le risque de transmission va être d'autant plus important. Et c'est important, à l'arrivée de cette période, qu'on arrive à baisser la circulation du virus le plus possible pour pouvoir passer cette phase qui va être critique.
Une question pour conclure. Donc là, on en est au couvre-feu. On va voir dans les semaines qui viennent si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, quelles sont les autres mesures dont disposeraient les pouvoirs publics avant d'en arriver au reconfinement total?
Alors, par chance, il y en a encore un certain nombre. Typiquement, le télétravail n'est pas encore imposé, même s'il est conseillé. Mais voilà, on pourrait certainement faire plus sur le télétravail quand c'est possible, sachant que le télétravail, c'est bien bon pour ceux qui vont pouvoir faire du télétravail, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, puisque ça va réduire la densité de personnes qui se déplacent pour aller travailler ou qui sont sur les lieux de travail. Il y a l'arrivée de la nouvelle application qui va remplacer Stop Covid, qui va permettre, si elle est acceptée par la population et si elle est suffisamment utilisée, de venir épauler tout le dispositif de contact tracing et donc prévenir très rapidement les gens en cas d'infection. Et puis, le couvre-feu aujourd'hui, il est à 21h. On a vu en Guyane qu'il avait fallu remonter l'horaire de couvre-feu pour contrôler l'épidémie. On aura éventuellement encore ce moyen-là.
Ça va faire passer à 20h ou à 19h ou à 18h.
Par exemple, alors on n'en est pas là encore une fois, mais ça peut faire partie des options et tout ça pour attendre les premiers vaccins qui ne devraient plus trop tarder, on espère.
Yves Godin, votre sentiment là-dessus pour conclure?
Alors juste sur les vaccins, moi je reste extrêmement prudent. Je reste extrêmement prudent parce que autant quand on a un bon vaccin, encore une fois, contre les virus, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que les phases 3, il faut les faire sérieusement, et ça prend du temps. Et je crois qu'il est extrêmement important de les faire, parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'un vaccin. C'est pas une question d'efficacité ou d'inefficacité, mais un vaccin qui entraînerait peut-être quelques complications. On a encore beaucoup de chances à comprendre au niveau de la réponse immunitaire, et je pense qu'il faut qu'on le comprenne pour qu'on ait un vaccin efficace et qu'on fasse les phases 3 sérieusement.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus faire un état des lieux de cette épidémie de coronavirus. Merci Yves Godin, merci Pascal Crépel, merci Camille Gobert. On peut vous lire dans Science et Avenir la couverture de ce mois d'octobre, vous vous en souvenez?
C'est sur l'hérédité.
Absolument, c'est sur l'hérédité. On en avait parlé, on en reparlera d'ailleurs ce vendredi dans le tour de table de l'actualité scientifique avec le camarade et votre camarade Olivier Lascar. Et puis on suit et on continue à suivre l'évolution de cette épidémie de coronavirus tous les jours dans le journal des sciences et le vendredi matin vers 7h15 dans la radiographie du coronavirus. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Hélène Trigros à la réalisation, Élise Leu à la technique. Demain, nous irons chercher des métaux ou
des minerais, mais alors loin, très très loin de nous, sur les astéroïdes ou les astres lointains, alors que la sonde Osiris-Rex va rencontrer demain soir l'astéroïde Bennu pour en prélever plus tard un échantillon. Nous évoquerons le minage spatial demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.